en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La sonde Vénus Express de l'Agence spatiale européenne a été remise en orbite autour de la planète Vénus le 11 avril 2006. Depuis plus de 2 ans, ce petit satellite météorologique remplit vaillamment sa mission d'observation, envoyant aux planétologues ses données sur l'atmosphère, la surface et l'environnement ionisé de Vénus. Pierre Drossard, directeur de recherche au CNRS, au LESIA, laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, nous livre le bilan des observations de Vénus Express. Cette conférence se déroulait au Bureau des longitudes en novembre 2008.
Bonjour à tous. Donc c'est de Vénus que je vais vous parler, et plus particulièrement de la mission Vénus Express, une mission de l'Agence spatiale européenne qui a été lancée vers sa cible, Vénus, il y a presque 3 ans, puisque c'est le 9 novembre 2005 qu'a eu lieu le lancement. Je vais parler de la planète Vénus et de ses observations, également des enjeux de ses observations dans le contexte de la planétologie moderne, pour vous donner au moins un aperçu de non seulement des résultats, mais également des objectifs et de notre insertion dans la discipline scientifique en général. Je commence juste par quelques rappels pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Vénus, la planète sœur de la Terre, on dit quelquefois, puisqu'elle a d'abord beaucoup de ressemblances. Elle se situe déjà un peu plus près du Soleil, hein, l'unité astronomique, la distance Terre-Soleil, donc elle est un peu moins de 3/4 de la distance Terre-Soleil, donc pas si assez proche comparée à la Terre. Elle a à peu près la même taille aussi, un rayon planétaire de 6051 km, donc juste un petit peu plus petit que celui de la Terre, et une masse aussi comparable. Donc on le pense, une composition de l'intérieur de la planète assez similaire, puisque toutes les planètes dans les modèles actuels de formation du système solaire sont composées des mêmes matériaux à l'origine d'accrétion. Donc jusque-là, tout ressemble assez. Une inclinaison de l'axe très faible, donc pas de saison sur Vénus, en tout cas rien de très net. Donc, et bon, la durée de l'année, bon, elle est fixée par les lois de Kepler, donc elle est évidemment un peu plus courte. Là où ça change quand même déjà beaucoup, c'est sur la durée du jour de Vénus. La rotation de la planète sur elle-même est très lente, 243 jours en plus dans le sens rétrograde, comparé au jour terrestre. C'est un des mystères de Vénus, ça j'en parlerai pas aujourd'hui. Ça concerne d'ailleurs des gens du Bureau des longitudes et des gens qui ont travaillé là-dessus, en particulier Jacques Lascar, hein, de l'Institut de mécanique céleste, ont travaillé pour essayer d'expliquer cette rotation par des contraintes de marée orbitale, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. C'est pas un des objectifs accessibles à la mission spatiale. Mais c'est évidemment un paramètre qui va jouer sur ce qu'on va mesurer sur Vénus et sur Terre. La rotation de la Terre est un des paramètres essentiels pour expliquer la météorologie terrestre. Et celle de Vénus est très différente, et une des raisons est cette rotation. Et alors là où ça devient franchement différent, c'est quand on regarde des paramètres physiques et atmosphériques près de la surface de Vénus, 460 degrés au niveau du sol, et une pression de 92 bars, c'est-à-dire 92 fois la pression terrestre, 92 000 hectopascals, si vous préférez. Et là, également, ça va être une des grandes différences dans ce qu'on va étudier sur Vénus. Tout ça, on le savait bien sûr déjà depuis longtemps. Il a fallu quand même des missions spatiales pour arriver à mesurer ces paramètres. Pourquoi ? Parce que Vénus, comme tous les astronomes amateurs le savent bien, est un objet finalement un peu frustrant à observer, parce que on voit pas grand chose à vrai dire au télescope. On voit les phases, c'est très intéressant, Galilée les a observées pour la première fois, et comme pour la Lune on voit les phases de Vénus, mais pour ce qui est de voir des détails sur les nuages ou encore des variations, c'est beaucoup plus délicat. Ça a pu être fait, c'est fait maintenant régulièrement par des astronomes amateurs qui ont des caméras CCD qui sont quelquefois d'ailleurs assez sophistiquées, qui permettent d'observer des détails dans les nuages de Vénus qui ont été observés pour la première fois au pic du Midi par Boyer et ses collègues dans les années 56-60, qui ont montré pour la première fois que l'atmosphère de Vénus tourne rapidement sur elle-même en 4 jours. Alors que, comme on l'a découvert plus tard par les observations radar, la surface, elle, tourne en beaucoup moins de temps. Voilà comment on s'imaginait Vénus dans les années 50, dans les livres de science-fiction, un monde comme la Terre à l'époque secondaire, donc plus près du Soleil, donc plus chaud, avec une végétation luxuriante. Et voilà comment on se le représente aujourd'hui. Bon, c'est une vision un peu romantique de la planète, mais avec quand même des données physiques plus précises à la base, donc des nuages, mais des nuages d'acide sulfurique, une pression, donc, comme j'ai dit, très importante au sol, une surface volcanique très chaude et une composition de l'atmosphère essentiellement de gaz carbonique, à peu près donc 80, plus de 90 bars de gaz carbonique. Et ce gaz carbonique produit un effet de serre, ainsi d'ailleurs que les nuages combinés, qui donne à peu près 400 degrés d'effet de serre quantifié en température, ce qui relativise certains l'effet de serre tel qu'on en parle sur Terre, encore que le climat de Vénus n'est certainement pas l'objectif qu'on se fixe pour le climat de la Terre. Alors c'est une boutade, cela dit, il est certain qu'aujourd'hui, quand on étudie les planètes, c'est aussi pour comparer les phénomènes physiques d'une planète à l'autre, donc l'effet de serre en est un, ce qu'on appelle le transfert radiatif en physique atmosphérique, et d'étudier Vénus dans ses atmosphères extrêmes, avec des conditions extrêmement particulières, ça donne aussi des informations sur la façon de modéliser notre propre atmosphère. J'y reviendrai. Je vais faire un très bref historique de l'exploration de Vénus pour vous dire un peu d'où on partait dans cette mission Vénus Express, puisque bien entendu, nous ne partons pas dans l'exploration comme dans les années 60, où à l'époque, donc c'était le grand âge de l'exploration, où on découvrait en gros les planètes l'une après l'autre. Et aujourd'hui, nous nous basons sur ce qui a été découvert dans ces années des 60 à 80, 90 maintenant, pour aller plus loin, si possible. La surface de Vénus a été observée par les sondes soviétiques Venera. Enfin, il y en a eu toute une série, les premières à se poser, Venera 13 et 14, ont fourni des images de la surface. Elles ont pu survivre 2 heures pour Venera 13, 1 heure pour Venera 14, malgré les conditions de température et de pression, ce qui a suffi pour faire quelques analyses de sol, montrer déjà que le sol était une composition basaltique, donc plutôt volcanique dans les standards terrestres, avec une composition également en feuillet que les géologues interprètent comme étant probablement due à des réactions entre l'atmosphère et la surface. Beaucoup d'informations ont pu être tirées de ces sondes. Et ce sont à ce jour les seuls à avoir réellement produit des panoramas de la surface. Ce que vous voyez là, c'est ici le bord du bouclier de descente de la sonde Venera. Et bon, quelques éléments éjectés, dont un capot de caméra, un étalon. Et c'est une caméra grand champ, donc on voit l'horizon ici sur le coin de l'image et la surface et sa structure. Également, donc, dans les années 90, on se rapproche un peu plus des objectifs qui ont été assignés à la mission Vénus Express. Il y a eu un survol par une sonde de la NASA, la sonde Galileo, qui était en route vers Jupiter et qui passait près de Vénus. Alors non pas que ça soit forcément le chemin le plus direct, mais bon, vous connaissez sans doute ces méthodes d'accélération par passage près d'une planète pour gagner du moment cinétique et pouvoir atteindre des objectifs. Beaucoup de sondes y ont eu recours dans ces dernières années et beaucoup d'observations ont pu être faites grâce à l'instrumentation très sophistiquée à bord de la sonde Galileo. Le survol n'a duré que quelques jours, quelques heures pour le plus rapproché, mais on a eu déjà des images dans l'ultraviolet, bon, qui ressemblaient aux images précédentes que je n'ai pas remis ici, de Mariner 10 et d'autres observations, où on voit donc des contrastes dans les nuages. Je disais que les contrastes sont très faibles, mais ils existent et on peut les renforcer, surtout si on observe dans l'ultraviolet, mais également dans l'infrarouge. Et là, c'était quand même les images les plus détaillées qu'on avait, même si les observations en télescope au sol en avaient déjà donné une première idée. Une image également donc des nuages, mais des nuages observés sur la face nocturne de Vénus dans l'infrarouge, ici vers 2 microns 3, qui montre d'abord que des nuages très différents. Donc, clairement, on n'a pas les mêmes structures, on n'arrive pas à reconnaître, en tout cas au premier abord, les nuages vus dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge. C'est qu'on observe une autre couche nuageuse. Alors, on savait aussi par les sondes de descente qu'il y a plusieurs couches de nuages, tous composés d'acide sulfurique à différentes concentrations, à différents niveaux dans l'atmosphère, entre 45 et 65 km. Ça peut varier un peu, on y reviendra. Et là, on observe plutôt la couche inférieure et là, la couche supérieure. Donc déjà, là, c'était simplement visuellement, hein, sans rentrer dans trop de détails, on avait déjà la vision de contrastes très différents entre ces deux longueurs d'onde. Or, il n'y avait jamais eu d'observation de Vénus dans ce domaine de l'infrarouge par une sonde en orbite. Donc, un des objectifs dans la mission Vénus Express a été justement d'avoir un instrument qui permette ce genre d'observation systématique, rapprochée, donc avec des résolutions spatiales bien meilleures que ce qu'on peut faire du sol, et surtout avec le suivi temporel qui permet de faire réellement de l'étude météorologique. Alors, dans les années 90, une autre sonde de la NASA a produit des observations impressionnantes de la surface de Vénus, cette fois, qu'on peut observer à condition d'observer en ondes radar. Ce sont les radars à synthèse d'ouverture qui permettent de traverser les nuages. Il existe de tels instruments pour l'observation de la Terre qui fonctionnent en tout temps. Et sur Vénus, on peut comme ça voir à travers sa surface et cartographier précisément. Alors, ce n'est pas une image directement en longueur d'onde visible, mais on en retire à partir des observations de contraste et des structures beaucoup d'informations géologiques. Je ne suis pas géologue, je ne pourrais pas vous interpréter vraiment comme un spécialiste tout ce qu'on voit sur cette image. Il s'agit d'une image vue du pôle Nord. Donc, il y a quelques zones terre incognitée qui ne sont pas encore aujourd'hui complètement cartographiées. Mais pour l'ensemble, presque de toute la planète, on a, alors c'est l'altitude qui est représentée suivant les couleurs plus claires ou plus sombres. Donc on voit ici le point culminant de Vénus, qui est les monts Maxwell, qui sont à peu près 11 000 mètres d'altitude par rapport au niveau moyen. On a aussi des zones plus basses de dépression, donc les échelles s'échelonnent entre moins 3 000 et plus 11 000 mètres. Et beaucoup de structures volcaniques. Donc là, c'est vraiment là qu'on a réalisé à quel point Vénus était une planète volcanique, avec une surface relativement jeune à l'échelle géologique, pas plus de quelques centaines de millions d'années, contrairement à l'âge du système solaire, je vous le rappelle, de 4,5 milliards d'années. Donc, une surface qui a été retravaillée par le volcanisme. Jusqu'à quand? C'est là toute la question. Y a-t-il encore aujourd'hui un volcanisme actif sur Vénus? Et c'est une des questions qu'on continue à se poser et auquel Vénus Express peut apporter quelques éléments de réponse. Voilà donc le contexte dans lequel la mission Vénus Express a été proposée à l'ESA dans 2002, pour être précis. Une petite mission qui reprenait beaucoup d'éléments de la mission presque homonyme Mars Express. C'est pas un hasard. On a réutilisé la même structure de satellite qui avait été construit donc par l'industriel Astrium, EADS, et qui disposait de nombreux éléments de rechange, suffisamment pour construire une sonde relativement bon marché, on va dire. Bon, ça se compte quand même autour de 200 millions d'euros, ce qui peut paraître élevé, mais pour une mission spatiale planétaire, c'est tout à fait raisonnable. Donc c'est en ce sens que c'est une mission de petite taille. Bon, bien ciblé, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire sur ces missions. Une des difficultés des missions spatiales planétaires d'aujourd'hui, c'est que, comme je disais au début, on a passé l'âge de l'exploration, donc on va aller plus loin, ce qui va demander des instruments, bien sûr, plus précis, plus sophistiqués. Bon, on a la technologie avancée, donc on peut effectivement utiliser des moyens plus modernes, mais il va falloir maintenant répondre à des questions beaucoup plus précises qu'autrefois, où il s'agissait encore que de mesurer une pression, une température et quelques vitesses de vent. Le développement de cette sonde a été remarquablement rapide, 3 ans, entre la décision de mission et le lancement. C'est, je crois, un record pour l'ESA. Et grâce au fait qu'on a réutilisé beaucoup d'éléments, y compris les instruments. On a utilisé des instruments qui étaient déjà sur Mars Express, dont on avait des éléments de rechange ou même des instruments de rechange complets. Il y a juste une caméra qui a été faite spécialement pour Vénus Express. C'est un instrument de radio. L'instrument Virtis, dont je m'occupe, qui travaille en spectroscopie infrarouge, était, lui, sur la sonde Rosetta, une sonde vers une comète qui est en route, lancée en 2003 par l'ESA, qui n'arrivera qu'en 2014. Et on avait donc un instrument pratiquement complet à réutiliser. Il se trouve que les caractéristiques de l'instrument pouvaient s'adapter à une sonde de Vénus. Ce n'était pas tout à fait évident au début, puisqu'il fallait s'adapter à des contraintes quand même de missions très différentes. Aller à Vénus, au lieu d'aller à une comète observée à 3 unités astronomiques dans des conditions thermiques différentes, ce n'était pas forcément évident, mais il se trouve que les objectifs scientifiques d'une part et les contraintes techniques d'autre part étaient tout à fait adaptées. La voilà d'ailleurs, avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. La sonde Vénus Express, peu de temps avant son lancement, au moment où on adapte les tâches de propulsion vers interplanétaire, qui s'appelle Fregat, dans ce cône. Et la sonde est ici. Ici, le cône est simplement un adaptateur. Vous avez les éléments de propulsion et les instruments qui sont cachés pour la plupart. Ici, on voit que la partie des radiateurs des surfaces sans grand intérêt. Les parties optiques sont en fait vers l'avant, c'est-à-dire que la sonde regarde vers le haut. La plupart des axes optiques des instruments sont vers le haut. Et il y a, comme sur toute sonde, des instruments classiques, panneaux solaires qui sont évidemment ici repliés avant le décollage, transmission radio, etc. Voilà pour l'échelle, donc un cube, un satellite d'un peu plus d'un mètre cube. Donc un petit satellite, le lancement, comme je disais, il y a presque 3 ans, de Baïkonour sur une fusée Soyouz. Tels qu'on en verra peut-être de Kourou sur le site de l'ESA dans maintenant un peu plus d'un an. Un lancement sans histoire. Ensuite, donc en novembre, l'insertion en orbite presque 6 mois plus tard, en avril 2006. Le trajet à Vénus est assez court, c'est la planète la plus proche de nous. Et une orbite, alors que je vais vous montrer dans les diapos suivantes. Voilà ici la structure du satellite, des panneaux solaires assez étroits par rapport à d'autres sondes que vous avez peut-être vues en images, parce que là aussi, comme on est plus près du Soleil, on a tout simplement plus de rayonnement et on peut se contenter de surfaces moins grandes. Et au total, 7 instruments, un magnétomètre, l'instrument Virtis, donc spectro-imagerie infrarouge dont je m'occupe, un spectromètre infrarouge PFS, un autre spectromètre qui s'occupe de faire des occultations solaires, et j'expliquerai le mécanisme aussi tout à l'heure, une caméra qui s'appelle Venus Monitoring Camera, Vera, qui est un instrument radio qui utilise les ondes radio de transmission de la sonde vers la Terre comme outil diagnostique de l'atmosphère. Et enfin, un instrument qui s'appelle Aspera qui mesure les caractéristiques du milieu ionisé autour de Vénus. Donc une panoplie d'instruments, pas exceptionnellement complexe, mais quand même complète en sens qu'on étudie toutes les caractéristiques de l'environnement planétaire, environnement ionisé, je l'ai dit, de l'atmosphère par imagerie, par spectroscopie, et le magnétomètre. Alors non, pourquoi un magnétomètre? Puisque vous savez peut-être que Vénus n'a pas de champ magnétique. En réalité, c'est pour étudier le champ magnétique très faible qui est induit par le vent solaire autour de la planète. C'est son objectif principal. Voilà à quoi ça ressemble un instrument spatial, et ceux de Vénus Express. J'ai montré ici les 2 instruments avec la plus forte participation française, peut-être par chauvinisme, mais enfin, ça vous donne surtout une idée. La taille, c'est 60 cm sur cette dimension. C'est déjà un gros instrument relativement, avec une plaque qui fait partie de l'instrument, qui sert à refroidir. C'est un radiateur qui refroidit l'instrument et l'optique. Les canaux optiques, non, voici les entrées ici. Et différents canaux. Alors ici, c'est l'instrument SWIRE développé au service d'aéronomie, aussi un laboratoire pionnier dans l'exploration spatiale française, et qui est, lui, un spectromètre qui utilise les rayons du soleil absorbés par la planète pour faire ses investigations. Alors, juste encore un transparent avant de montrer des résultats, pour montrer comment fonctionne la spectro-imagerie, l'instrument sur lequel je travaille personnellement. La spectro-imagerie, ça veut dire qu'on fait en même temps des images et des spectres. Un spectre, c'est simplement la décomposition de la lumière en fonction de la longueur d'onde, donc les couleurs dans le spectre visible. On travaille pour l'essentiel dans l'infrarouge, quoiqu'on ait également un canal dans le visible. Donc on va développer toutes les couleurs infrarouges de 1 jusqu'à 5 microns. Et sur chaque longueur d'onde, on va faire une image. C'est comme un filtre, sauf que là, on a à peu près 400 filtres différents. Donc chaque longueur d'onde va nous donner une image de la planète différente. Et en particulier, suivant la longueur d'onde, on va être plus ou moins profond dans l'atmosphère. On va faire des images jusqu'à la surface, on le verra, à certaines longueurs d'onde, ou bien au sommet des nuages, au contraire, ou bien même encore plus haut dans l'atmosphère. Et c'est la combinaison de toutes ces images qui sont obtenues quasi simultanément, tout au moins simultanément dans une direction spatiale et le spectre. L'autre dimension est obtenue par balayage, comme sur les anciennes caméras de télévision. Donc on a une image reconstituée par longueur d'onde, et en tout, ce qu'on appelle des cubes, puisque si on empile ces images l'une après l'autre, on a un cube de 430 images dans l'infrarouge et 256 dans le visible, ce qui peut produire en quelques heures un volume de données assez considérable, pour, y compris avec les ordinateurs récents dont on dispose. Alors, que faire à partir de tout ça? Voilà déjà une image, ici, cette fois, de la caméra visible de Vénus Express lors de l'arrivée, au cours de la première orbite, ce qu'on appelle l'orbite d'insertion, lorsque la sonde arrive de la Terre et va se mettre en orbite autour de Vénus. Ce sont des images assez émouvantes parce qu'à chaque passage, comme l'orbite est très allongée, on voit, c'est un peu comme si on plongeait dans l'atmosphère à chaque fois. Donc, c'est une introduction, en quelque sorte. Et là, c'est l'instrument Virtis dont je vais parler aujourd'hui aussi abondamment. Alors, comme on travaille dans l'infrarouge, on n'est pas obligé d'utiliser la lumière solaire comme source. On peut utiliser le rayonnement thermique de la planète elle-même. C'est ce qui permet d'observer ici Vénus du pôle sud, avec le côté jour à gauche, dans les longueurs d'onde ultraviolet, puisque, comme je l'ai dit, on peut utiliser l'instrument de l'ultraviolet, proche, très proche ultraviolet, vers 0,4 microns, jusqu'à l'infrarouge à 5 microns. Et côté nuit, eh bien, on observe le rayonnement thermique de la planète. Bon, les structures d'images sont très différentes, j'y reviendrai, mais on voit, et ça c'est comme sur l'image que j'ai montrée de Galiléo avant, les nuages profonds à droite dans le thermique et les nuages supérieurs, la réflexion par la couche supérieure de nuages à gauche en bleu, qui sont les images habituelles, si je puis dire, de Vénus. Alors, ces images ont été obtenues lors de la première orbite, c'était un peu émouvant d'arriver avec le 11 avril 2006, dès la première orbite, avec des observations le long de cette orbite très elliptique, ces premières images qui nous ont montré qu'on avait réellement à disposition un outil d'investigation important pour Vénus. Alors l'orbite, là, c'est l'orbite d'insertion. L'orbite finale est moins allongée, mais elle a la même structure. L'orbite est en effet une orbite polaire qui survole à peu près 89 degrés de latitude nord, le pôle nord, à 250 km d'altitude. Et par contre, l'apoastre, le point le plus distant, est à 60 000 km, une orbite très elliptique. Et pour voir Vénus de près, donc on la voit au-dessus du pôle nord, par contre, pour avoir une vision grand champ, pour voir réellement toute la planète, comme vous la voyez ici, c'est au-dessus du pôle sud qu'on le verra. Donc on a complémentarité, mais on n'a pas du coup la symétrie. On ne voit pas à la fois tout l'hémisphère sud et tout l'hémisphère nord à cause de cette orbite très particulière, qui est liée, bon, le choix de l'orbite est lié à des contraintes tout simplement d'insertion d'orbite. Vous avez une certaine masse de carburant à bord de la sonde qui va vous permettre des manœuvres en quantité limitée, et c'est ça en gros qui va vous déterminer le type d'orbite auquel vous avez accès. Cela dit, c'est une orbite justement qui permet à peu tout faire, puisque suivant la phase de l'orbite, on va être soit en observation à longue distance, soit quand on se rapproche, avoir des occultations, par exemple, ou des observations très rapprochées, mais avec cette fois un défilement rapide, puisque les lois de Kepler nous disent qu'on passe très très vite quand on se rapproche sur ce type d'orbite, et à la fois même trop vite pour faire de l'imagerie haute définition. Donc on fera à ce moment-là des observations le long de la trace, le long de l'orbite. Voilà un peu le fonctionnement de l'instrumentation sur Vénus Express. Alors il y a toute une phase de l'orbite où il faut quand même envoyer les données au sol. On est obligé, il n'y a pas de plateforme orientable sur la sonde. Donc pour envoyer les données au sol, il faut tourner la sonde, l'antenne de la sonde vers la Terre. Ça se fait sur une phase d'orbite d'environ 6-8 heures. En direction des grandes antennes de l'Agence spatiale européenne. Et surtout, d'ailleurs, on utilise la nouvelle antenne Cebreros en Espagne qui reçoit quotidiennement toutes les données de Vénus Express. L'orbite elle-même dure 24 heures, ce qui est justement très pratique au niveau des opérations sol pour phaser à la fois les observations et les opérations au sol. J'en viens maintenant à des résultats, bon, pas tous parce que je ne peux pas non plus rentrer dans des détails trop complexes. Qu'avons-nous appris après ces 2 ans et demi, on va dire, d'observation de Vénus par Vénus Express? D'abord, on est même déjà, je dois le dire, en mission, ce qu'on appelle les missions étendues dans le jargon des agences spatiales, c'est-à-dire que la mission initiale prévue était de 2 jours de Vénus, si vous avez bien suivi, donc c'est à peu près 500 jours. Donc on a déjà dépassé les 500 jours. On a obtenu une première prolongation de mission qui doit se terminer en mai 2009 et on espère obtenir une nouvelle prolongation de mission au vu de nos nombreux résultats. Ces résultats sont, comme tous les résultats scientifiques, publiés dans les grandes revues internationales. On a eu un premier lot de publications il y a maintenant un an à peu près, dans un numéro dédié pour partie aux observations de Vénus Express dans Nature. Nous sommes sur le point d'avoir ici un numéro spécial du journal américain, Journal of Physical Science Research, pour un grand nombre d'articles de résultats de Vénus Express. Donc on a un très grand nombre de résultats. Je ne peux en détailler qu'une partie. Je vais essayer d'être, disons, le plus pédagogique possible. C'est souvent assez spécialisé, mais il y a quand même quelques résultats d'intérêt vraiment beaucoup plus large que les grands spécialistes de tel ou tel domaine. Déjà, sur l'environnement ionisé de Vénus, on observe la planète avec une orbite elliptique, comme je l'ai dit, qui permet, alors l'intérêt de Vénus Express, c'est qu'elle passe dans différentes zones de ce qu'on appelle le plasma, le milieu ionisé, qui provient de l'interaction du vent solaire, ces particules chargées en provenance du Soleil, et qui rencontrent l'atmosphère de Vénus. Vénus n'a pas de champ magnétique sensible, et du coup, le vent solaire a une interaction plus forte avec l'atmosphère que sur la Terre, par exemple, qui est protégée par un champ magnétique qui va dévier les particules chargées du vent solaire. Et l'orbite de Vénus Express passe à la fois donc, à l'intérieur ici et à l'extérieur là de ce qu'on appelle l'onde de choc du vent solaire et va faire des mesures intéressantes sur la variabilité. Bon, vous voyez sur ce schéma de principe des choses très très compliquées dans ce qu'on appelle la queue magnétique vers la queue du vent solaire, avec un grand nombre de phénomènes importants de type magnétique et électrique. Il y a sur Aspera des mesures de composition d'ions et de neutres et d'imagerie qui ont permis de montrer qu'il y avait un échappement à la fois d'oxygène et d'hydrogène dans les proportions 1 pour 2 à partir de l'atmosphère de Vénus, donc très probablement échappement de l'eau directement mesurée dans la queue du vent solaire. C'était un des premiers résultats marquants de cet instrument. Un autre instrument, c'est le magnétomètre qui a permis de détecter des signatures d'orage dans l'atmosphère de Vénus. Alors, c'est ce qu'on appelle des ondes sifflement. Vous en voyez ici une représentation linéaire. Le magnétomètre vous donne un champ magnétique dans 3 directions. Il y a 3 champs magnétiques, 3 axes. Alors, la surface de Vénus, à l'opposé, on prend les extrêmes, depuis l'environnement ionisé jusqu'à la surface. Comment observer la surface de Vénus alors qu'on a une atmosphère aussi épaisse, aussi opaque et couverte de nuages? Eh bien, même en optique, on a vu qu'on le voyait en radar, mais on peut même la voir en optique, mais seulement à certaines longueurs d'onde, et dans ce qu'on appelle des fenêtres. Et non pas côté éclairé, parce que là, la lumière solaire réfléchie par le sommet des nuages éblouit complètement les instruments, mais côté thermique, où la lumière provient simplement de l'émission thermique, comme une plaque chauffante de la surface, cette lumière traverse les nuages et est observable par nos instruments. Voici ici une preuve assez convaincante. À droite, une image recréée à partir des images radar Magellan en fonction de la topographie. Les contrastes sont liés à l'altitude de la surface. À gauche, une image presque sans traitement par Vénus Express et Virtis qui montre le contraste thermique à la longueur d'onde de 1 micron 0,3 où il y a très peu d'absorption atmosphérique. Il y a de la diffusion dans les nuages, mais pas suffisamment pour complètement gommer les détails. On voit très nettement des contrastes. Donc, pourquoi y a-t-il des contrastes ? Simplement parce que la surface plus élevée est plus froide, donc émet moins. La surface plus profonde est plus chaude et donc émet plus de photons. Et c'est ce qui fait les contrastes. Alors, on a pu de cette façon retracer une carte de l'hémisphère sud qu'on compare à la carte radar à droite avec, comme vous pouvez en juger, une très bonne corrélation. Avec même certaines zones qui n'étaient pas couvertes par le radar, qu'on complète grâce aux observations Vénus Express, et avec également quelques anomalies à certains endroits très particuliers qui semblent correspondre à des états de surface différents sur Vénus, liés sans doute au volcanisme. Non pas un volcanisme actuel, non pas des coulées de lave récentes, enfin, on aimerait bien en voir et on pourrait en voir s'il y en avait de grande amplitude, mais on n'en a pas encore vu pour l'instant, mais sans doute à des variations de rugosité de surface. Donc on a un élément de surface intéressant parce qu'on l'observe globalement. Jusque-là, la surface de Vénus, on l'observait surtout en quelques points par les sondes de descente. Là, on peut en faire une cartographie et prolonger donc, l'exploration des sondes antérieures. Entre les deux, entre la surface et le milieu ionisé, donc il y a tout ce qui est l'atmosphère proprement dite, depuis les nuages jusqu'à l'atmosphère supérieure, et on va étudier la météorologie de Vénus. Alors, qu'est-ce que c'est la météorologie de Vénus ? Il y a d'abord les nuages, l'observation des nuages et leur mouvement. Donc là, on va observer plusieurs couches de nuages suivant les longueurs d'onde. On va observer des structures de nuages, comme ici, dans une zone extrêmement complexe entre les régions équatoriales où la circulation est plutôt en bande et les structures polaires où on voit des tourbillons. Et beaucoup de variations d'ondes également dont on peut étudier la propagation. Alors, on peut également mesurer l'altitude des nuages. Alors, comment ? On prend des images et on a ici en grisé une image de la caméra visible superposée à des images de la caméra infrarouge dont on a en même temps le spectre, la répartition en longueur d'onde. Et alors, ce qu'on voit dans ce spectre, les motifs ici sont des absorptions essentiellement du gaz carbonique qui est le constituant majeur. Si le nuage est plus ou moins haut, on aura des absorptions plus ou moins profondes. Bon, c'est une technique assez classique de mesure de topographie par spectroscopie. En la répétant sur les images, on peut connaître comme ça l'altitude du sommet des nuages systématiquement et sur toute la planète, ou tout au moins une proportion significative. Ça donne donc une idée non seulement à deux dimensions de la variation des nuages, mais également en trois dimensions pour connaître en même temps l'altitude et les variations spatiales. On peut également, je l'avais dit au début, faire en même temps l'observation côté jour et côté nuit grâce à l'observation en lumière solaire réfléchie d'un côté et en thermique de l'autre. Et essayer l'atmosphère de Vénus est très dynamique et varie en quelques heures pour certaines structures. Donc c'est intéressant de pouvoir observer en même temps, ou en tout cas à intervalles très rapprochés, les faces nocturnes et éclairées, ce qui est fait ici. Alors là, c'est encore une vision au-dessus du pôle sud et une structure parmi les plus intéressantes qu'on a étudiées là, dans cette mission, c'est ce qu'on appelle le vortex polaire, c'est ce tourbillon enroulé ici autour du pôle sud, où on voit les nuages, si on part de l'équateur, plonger jusqu'au pôle sud, ici en différents exemples. D'où vient cette structure ? Alors, on ne l'a pas découverte avec Vénus Express. On avait déjà une bonne idée de la météorologie de Vénus avec les autres sondes, mais la plupart des autres missions étaient en orbite équatoriale, sauf la mission Magellan, mais elle n'étudiait pas l'atmosphère, justement. Et donc, on n'avait pas une vision aussi directe des vortex polaires. Or, il apparaît bien clairement que c'est une structure assez essentielle dans la météorologie de Vénus. Alors, pourquoi est-ce si différent de la météorologie terrestre ? Eh bien, c'est la rotation qui entre en jeu. On a sur Vénus, comme sur Terre, une météorologie qui est gouvernée par le rayonnement solaire. La météorologie, c'est une machine thermodynamique où le rayonnement solaire chauffe à l'équateur et chauffe la température. Et cette température va devoir se redistribuer sur toute la planète par des mouvements de grande amplitude. Seulement sur Vénus, comme il n'y a pas beaucoup de rotation, le mouvement de l'équateur jusqu'au pôle n'est pas aussi freiné que sur Terre. Sur Terre, il y a ce qu'on appelle la force de Coriolis qui perturbe, c'est-à-dire que dès qu'un mouvement a tendance à aller de l'équateur vers le pôle, il est dévié et c'est ce qui empêche la circulation pôle-équateur directe. Ça entraîne tout un tas de phénomènes bien connus sur Terre, les alizés, les structures tropicales, et également une structure autour des pôles. Sur Vénus, on voit des structures qui rejoignent l'équateur jusqu'à, non pas tout à fait le pôle d'ailleurs, mais latitude de 60-70 degrés. Alors, pour faire la météorologie, il faut non seulement la dynamique, les observations des vitesses, mais également et des structures, mais également les températures. Alors, une des méthodes, ce n'est pas la seule, il y en a plusieurs qui se complètent d'ailleurs sur Vénus Express, mais une des méthodes, c'est d'utiliser l'onde radio de la sonde comme sondeur de l'atmosphère. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie donc l'onde le long de l'orbite ici vers la Terre, dans cet exemple, ou alors on vise une étoile ou on vise le Soleil, ça dépend des instruments. Et on va voir soit la lumière solaire ou stellaire absorbée par l'atmosphère, soit l'onde radio elle-même de la sonde déformée par l'atmosphère de Vénus. Dans tous ces cas, on va avoir de l'information sur la densité de l'atmosphère à différents niveaux, donc sur la variation avec l'altitude de la pression atmosphérique. Donc on peut avoir ça c'est l'instrument SPICAF-SOAR, soit une occultation stellaire, on regarde une étoile, soit une occultation solaire, on regarde le Soleil, soit encore l'observation de l'onde radio reçue sur Terre et déviée par l'atmosphère. Ça permet de remonter à ce qu'on appelle les profils de température. On représente ici la température en fonction de l'altitude. En bleu, on vous rappelle le profil terrestre, donc des températures clémentes, autour de 20 degrés. Et la température décroît avec l'altitude jusqu'à un point qu'on appelle la tropopause, au-dessus duquel la température remonte. C'est ce qu'on appelle la stratosphère sur Terre. Alors, pour en rester là pour l'instant, sur Vénus, on part de beaucoup plus chaud, 450 degrés et quelques, et la température descend et il n'y a pas, dans les modèles qu'on avait avant Vénus Express, d'inversion de température, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stratosphère sur Vénus. Alors ça, les modélisateurs l'expliquent, c'est assez complexe, ça fait intervenir des transferts radiatifs. Il faut comprendre complètement comment se passe le transfert de rayonnement depuis la surface jusqu'à l'extérieur pour arriver à reproduire ce type de profil. Mais ça donne beaucoup d'informations sur la composition de l'atmosphère et également sa structure et même sa dynamique. Alors, dans l'atmosphère supérieure, ça se complique aussi. Il peut y avoir d'autres inversions de température sur Terre et également sur Vénus, comme observé par d'autres sondes avant Vénus Express. L'instrument de sondage de l'atmosphère par occultation radio, VERA, a permis des mesures. Donc, ce sont les mêmes profils, toujours à température en fonction de l'altitude ici ou de la pression. Enfin, ça se convertit facilement de l'un à l'autre. Donc on a bien sûr le même profil thermique, à peu près les mêmes températures au sol et la même décroissance. Ce qui a été intéressant d'observer, c'est qu'on a, dans certains cas, pas toujours, mais un petit minimum de température et une remontée, c'est-à-dire on pourrait appeler ça une petite stratosphère, en tout cas une zone où l'atmosphère est beaucoup plus variable et non pas simplement isotherme croissant, décroissant avec l'altitude. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même très intéressant. Ça, en particulier, à chaque fois qu'il y a un minimum de température, ça fait une zone de l'atmosphère très particulière qui piège bon, non seulement les condensats, les nuages, mais également les ondes, la propagation d'ondes est extrêmement perturbée dès que vous avez ce type de phénomène dans l'atmosphère. Donc, on a là vraiment une signature importante de la structure de l'atmosphère qui n'était pas connue, en tout cas pas bien répertoriée avant Vénus Express. Alors ici, voici les mêmes profils près des pôles. En réalité, les profils de température changent assez peu dans la basse atmosphère entre les côtés jour et côté nuit. Malgré les durées du jour et de nuit très longues, la température se redistribue très vite grâce au mouvement atmosphérique. Et les variations de température jour-nuit ou même pôle-équateur sont présentes mais assez faibles. Alors, continuons dans la météorologie, on a vu la structure des nuages, les profils de température. Il y a bien sûr la composition en dehors du gaz carbonique dominant. Il y a des composés mineurs, monoxyde de carbone, sulfure de carboxyle, dioxyde de soufre, l'eau, très mineure, l'acide chlorhydrique. Tout cela sont quelques parties par million ou quelques dizaines de parties par million, très faibles, mais jouent un rôle important et sont mesurables par spectroscopie. Donc, c'est une des méthodes qu'on utilise et avec notre instrument d'ailleurs. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Je ne vais pas trop vous détailler. Voilà un spectre, c'est-à-dire variation flux reçu en fonction de la longueur d'onde avec des modulations extrêmement fortes du flux avec la longueur d'onde. Qu'est-ce qui module ? Ce sont ces molécules qui absorbent très sélectivement certaines longueurs d'onde et pas d'autres. Là, les spectroscopistes reconnaîtront sans mal une structure en W qui est due au monoxyde de carbone. Les structures plus complexes sont en fait dues à la vapeur d'eau et d'autres au CS ou SO2. On peut à partir de là non seulement détecter, mais également mesurer la quantité de ces constituants. Et comme on a une sonde qui fait tout le tour de la planète, la mesurer à différentes latitudes, en différentes positions. Donc on mesure la composition selon la position sur la planète. Et ce qu'on voit, c'est que certains composés, pas tous, mais certains ont des variations, en particulier le monoxyde de carbone et le sulfure de carboxyle, OCS. Par contre, d'autres composés, par exemple la vapeur d'eau, est uniformément répartie. On a pu le montrer d'ailleurs avec une grande précision grâce à Vénus Express. Donc on a très peu d'eau sur Vénus. Bon, déjà, l'eau ne peut être que sous forme de vapeur à ces températures au sol. Mais en plus, il y en a vraiment très peu. 30 parties par million seulement. Alors, les variations, donc, on peut les mesurer donc, point par point. Et une fois qu'on les a mesurées, eh bien, on les reporte sur la planète. On fait des cartes de variation du monoxyde de carbone. Voici ici le monoxyde de carbone reporté en cartographie sur la planète centrée ici autour du pôle sud. Et on voit qu'il y a des variations, donc du plus ou moins de monoxyde de carbone entre l'équateur et le pôle, et ça donc avec un maximum vers les 60 degrés. Au contraire, un autre composé, OCS, lui, fait plutôt une variation en sens inverse, c'est-à-dire qu'il est moins abondant vers les régions plus au nord. Les effets de bord ici sont non significatifs. Il y a donc un échange entre ces deux constituants. Alors, d'où cela provient ? Bah, c'est en réalité la circulation à grande échelle. Donc, c'est là qu'on retrouve la météorologie. C'est les mélanges de constituants entre l'équateur et le pôle. Eh bien, on les voit, on les visualise même directement. Et on mesure ce qu'on appelle, chez les météorologues, les cellules de Hadley, c'est-à-dire les grandes cellules de convection planétaire, qui redistribue non seulement la température et la chaleur, mais également les constituants entre équateur et pôle. Une mesure un peu technique, mais très importante, consiste à mesurer la valeur du deutérium sur Vénus dans le composé HDO, l'eau lourde, la vapeur d'eau, puisque ce composé est uniquement sous forme de vapeur, dans l'atmosphère de Vénus. Alors, ça a été observé en particulier par l'instrument, le spectromètre SPICAV, dont j'ai parlé au début, avec une mesure. Donc on mesure la vapeur d'eau hein, par technique spectrale, par technique d'occultation aussi, ce qui permet de la voir en fonction de l'altitude. Et on trouve, alors c'est au-dessus des nuages, donc là il y en a moins que dans l'atmosphère profonde. On en trouve une partie par million ou un peu plus. Par contre, HDO, bon, on en trouve moins, certes, mais pas tellement moins comme vous pouvez voir. Alors que sur Terre, ce rapport des sur H est beaucoup plus faible. Là, sur Vénus, on a un rapport H sur D de 150. Alors que le rapport d'essurage dans le milieu interstellaire, ou dans ce qu'on pense être la valeur du système solaire primitif, est très inférieur. Alors d'où vient un enrichissement pareil en deutérium? Ça a été une question qu'on n'a pas découvert avec Vénus Express, qui a été étudiée depuis de longues années. On pense qu'on a là une signature de l'évolution de l'atmosphère depuis l'origine, et en particulier de la perte de vapeur d'eau au cours des échelles géologiques. Comment cela se fait? C'est que la vapeur d'eau, et ça on l'avait vu au début avec l'instrument Aspera qui mesurait, si vous vous rappelez, dans le vent, l'interaction avec le vent solaire, la perte de vapeur d'eau vient de l'érosion de l'atmosphère, en particulier par le vent solaire. Mais l'eau lourde HDO étant un peu plus lourde, justement, et a tendance à moins s'échapper que l'eau normale, H2O. Par conséquent, au fil du temps, on peut avoir un enrichissement en HDO, donc en deutérium, dans l'atmosphère de Vénus. Alors, après, il faut faire des modèles pour essayer de savoir combien. La grande question est combien y avait-il d'eau à l'origine? Et c'est effectivement une question importante pour savoir si Vénus a subi une évolution planétaire majeure ou a toujours été dans cet état-là, et surtout depuis combien de temps. Alors, on n'a pas encore les réponses à ces questions, mais ce sont vraiment des questions fondamentales. Ce que nous voyons de Vénus aujourd'hui est-il depuis les premiers âges ou est-ce finalement une évolution récente? Et quand on dit récente, c'est à l'échelle géologique, mais même quelques centaines de millions d'années, pour un astronome ou un géologue, c'est récent. Alors, continuons en météorologie, on peut aussi mesurer bien sûr des vents. Alors pour ça, il faut une quatrième dimension, le temps. On mesure donc les nuages, les variations de nuages, en regardant tout simplement leur déplacement. Enfin, tout simplement, il faut quand même après recartographier précisément, remesurer et surtout faire des observations assez rapprochées pour vérifier que le nuage ne varie pas au cours du temps, ce qui est toujours un problème de base dans les mesures par déplacement. À partir de là, on peut remonter aux vitesses de vent en fonction de la latitude. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais on va de l'équateur ici jusqu'au pôle sud, ici. Et on mesure ici la vitesse du vent et on la mesure à différentes longueurs d'onde, donc à différentes altitudes dans l'atmosphère. On voit donc qu'on a, ça c'était bien connu, une vitesse de vent de l'ordre de 100 mètres par seconde au sommet des nuages à l'équateur. C'est ce qu'on appelle la super-rotation, donc une circulation des vents très importante qui fait faire aux structures nuageuses un tour de la planète en 4 jours à l'équateur. Par contre, il y a une chute complète du vent à partir de 60 degrés, jusqu'avec des vitesses très faibles au pôle. Donc on a en gros une structure en deux parties, assez plate jusqu'à 60 degrés, et qui décroît très vite après. Par contre, à plus basse altitude, on a également une super-rotation, mais un peu moins marquée. À 60 km, on a seulement 90 mètres par seconde, et beaucoup moins encore à 50 km. Alors, ces altitudes sont un peu approximatives, on n'a pas une mesure directe de l'altitude, mais on a, à partir de modèles, là également, une estimation. Alors, ça correspond en gros aux couches nuageuses différentes, supérieures, moyennes et inférieures. Donc, on a ce qu'on appelle le cisaillement, la variation verticale de la vitesse avec l'altitude. Ça, c'est un paramètre qui est mesuré ici complètement pour la première fois. Par contre, près des pôles, les vitesses se rejoignent. C'est-à-dire qu'on a une atmosphère qui tourne en bloc verticalement. Et ben, c'est ce qu'on va voir ici dans la série suivante d'images, ce qu'on appelle le vortex polaire. Alors, vous le verrez mieux au fur et à mesure. Je commence par les images les plus floues et les plus lointaines pour me rapprocher. Voici ici les premières images de l'orbite d'insertion, d'ailleurs, en imagerie thermique. Et ce à quoi on va s'intéresser, c'est cette structure ovale qu'on distingue avec différentes variations de forme ici près du pôle, qui est entourée d'ailleurs d'un anneau noir qui est également connu d'avance, mais jamais observé avec autant de précision et avec autant de mesures. Alors, on peut également le mesurer en fonction du temps. Voici d'autres observations ultérieures de l'orbite définitive où vous voyez sur une échelle de temps répétée d'ici de quelques heures la variation par rotation de cette structure. Donc, qui n'est pas réellement un ovale, mais une structure en S inversé, qui présente en réalité ce qu'on appelle deux vortex, deux points de tourbillon accolés et qui tournent ensemble. Alors, cette structure dynamique est très certainement liée à la météorologie de Vénus. Elle fait partie du système global de circulation de Vénus. Il existe son équivalent au pôle Nord, d'ailleurs, qui a été étudié par une autre sonde il y a maintenant plus de 20 ans, qu'il avait vu, mais pas sur une aussi longue durée, autour du pôle Nord. Donc on a confirmé qu'il y avait la même structure au pôle Sud et on a pu étudier sa rotation sur une longue période. Bon, on a mesuré une période de rotation de 2 jours et demi pour les bras ici, Spiro, mais une rotation de l'ensemble sur le centre ici en encore moins de temps. Mais on a également vu des variations, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une rotation chronométrique. On a énormément de variabilité et les structures elles-mêmes varient. Lorsqu'on a ici arrêté la rotation, remis ensemble plusieurs images et inversé la rotation pour faire paraître l'image fixe, on voit que la structure évolue ici en quelques jours. C'est une série d'images observées donc pendant plusieurs orbites de 24 heures successives pour voir l'évolution. Donc des fois, on voit une structure en S. Ici, on ne reconnaît plus le S, d'ailleurs. On a une structure presque monopolaire, quelquefois en triangle. Ça dépend. Encore une autre vision ici qui visualise, puisqu'on a dans l'infrarouge des possibilités de remonter à l'altitude. Ici, c'est par une technique simplement de contraste d'image, une vision tridimensionnelle approchée de ce vortex polaire. Il y a effectivement une variation rapide de l'altitude du sommet du nuage, c'est-à-dire qu'on voit vraiment l'atmosphère plongée, c'est bien l'impression que ça donne en imagerie simple, mais on peut le prouver grâce à la thermique et à la mesure d'altitude. On a l'atmosphère qui réellement siphonne près du pôle sud de Vénus. Enfin, après donc, l'étude de l'atmosphère basse et moyenne, il y a beaucoup d'études sur la haute atmosphère de Vénus, une région qui intéresse une science qu'on appelle l'aéronomie, les relations entre le rayonnement solaire et l'atmosphère à haute altitude, avec des phénomènes complexes de chimie atmosphérique et de chimie en équilibre, avec également des couplages avec l'atmosphère basse, qui envoie des signaux sous la forme d'ondes hein, qui réchauffent la haute atmosphère, mais également avec l'extérieur, avec des précipitations de particules, y compris du vent solaire ou le rayonnement solaire lui-même. Voici ici des images à une longueur d'onde très particulière d'émissions de l'oxygène sur la face nocturne de Vénus. Donc, ce sont les émissions de ciel nocturne de Vénus, on peut dire, dans l'oxygène. Ce sont des phénomènes très connus. Ça a été observé par des télescopes au sol dans les années 60. Mais l'intérêt, l'angle de Vénus Express, c'est d'abord de les observer assez systématiquement à chaque orbite, également avec un point de vue original, puisqu'on est une fois par jour au-dessus du pôle sud et on a une vision hémisphérique globale. Lorsqu'on fait non plus une observation unique, on voit ces phénomènes varier rapidement, mais qu'on en fait une moyenne statistique. Ce qu'on a fait après 2 ans de mission ici, on a reproduit ici en fausse couleur, bleu pour peu d'émissions, rouge pour beaucoup d'émissions. Voici ce qu'on obtient en recartographiant sur la planète dans sa situation normale, nord, pôle nord, pôle sud ici. On a peu d'observations dans l'hémisphère nord pour les raisons d'orbite que j'ai dit au début, mais on a une couverture assez bonne et qui permet de faire des moyennes importantes sur tout l'hémisphère sud. Et on voit qu'on a un maximum très fort de l'émission vers le centre de l'hémisphère nocturne, donc vers le minuit local, si vous préférez. Ça ne surprend pas les modélisateurs. C'était des choses qui avaient été prédites depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle la circulation diurne de l'oxygène, qui est créé par la photolyse de molécules de dioxyde de carbone par le rayonnement solaire côté jour, et le transport de ces molécules par une circulation, le transport de l'oxygène libre, eau, jusqu'à l'hémisphère sud. Et là, il y a convergence et plongée dans l'atmosphère des radicaux d'oxygène qui se recombinent en molécules d'oxygène O2 Et au moment de la recombinaison, il y a émission de rayonnement. C'est ce rayonnement qu'on détecte. Les modèles avaient déjà prédit que c'était effectivement plutôt autour du point antisolaire, comme on dit, à l'opposé du Soleil, qu'on devait voir le maximum d'émissions. Alors, ce n'est pas vrai instantanément. On peut avoir des variations extrêmement fortes qui font que le maximum ne sera pas forcément au point antisolaire. Mais en moyenne, en tout cas, c'est effectivement le cas. Et là aussi, on a une très bonne confirmation de ce phénomène grâce à Vénus Express. On a également beaucoup d'observations. On a des molécules nouvelles détectées, comme le radical OH, ainsi que des émissions infrarouges, comme le monoxyde d'azote, NO, observé en ultraviolet, en infrarouge. Beaucoup d'observations, bon, je ne peux pas vraiment vous détailler tout, mais qui donne aujourd'hui une vision unifiée sur une période de temps assez courte, de 2 ans, donc à un instant donné de la planète, avec aussi son évolution au cours de plusieurs mois. Donc, ben, je vais en venir à quelques conclusions. Donc, comme je vous ai promis, pour essayer de recadrer d'abord pourquoi faire ces mesures, bon, il ne s'agit pas uniquement de compléter l'encyclopédie de Vénus et de répondre simplement aux questions sur la composition ou la météorologie de Vénus. Alors d'abord, quel avenir pour la sonde, disons Vénus Express, donc elle peut espérer continuer, si l'ESA le veut bien, pendant encore un peu plus de 2 ans, jusqu'à l'arrivée d'une sonde japonaise, Venus Climate Orbiter, qui doit fournir des observations de Vénus avec une autre orbite. Ce serait très intéressant si on peut faire fonctionner les deux sondes en même temps pour compléter ce qu'on a fait. Également pour observer la variation des émissions observées jusqu'ici avec l'arrivée du maximum solaire. On était jusque-là en période de minimum solaire avec très peu d'activité solaire. On va arriver vers une activité solaire plus importante. On va avoir donc l'atmosphère de Vénus plus perturbée. Ça serait très intéressant d'observer ce qui se passe. Donc ça, c'est pour les 2 ans à venir. Après, il y a beaucoup de travail. On ne peut pas non plus tout dépouiller toujours en même temps. Mais on ne fait pas qu'accumuler les données. On en dépouille une partie. Et à partir de là, il y a certainement une remise à niveau des modèles de l'atmosphère de Vénus, bon, qui était déjà solidement établi dans les années 80, mais qui clairement demande une révision à partir de ce qu'on a observé jusqu'ici de Vénus Express. C'est un travail peut-être de compilation et de comparaison, mais extrêmement important pour la physique de l'atmosphère. Et à partir de là, retracer la climatologie de Vénus, partir du présent pour essayer de reconstituer le passé. Bon, c'est ce qu'on fait sur la Terre également. Et à partir de là, comparer Vénus aux autres planètes, et la Terre et Mars. Il y a, comme j'ai dit, beaucoup d'analogies avec la Terre, mais également des différences. Il y a quelques analogies aussi avec Mars, même si l'atmosphère est différente. D'abord, vu de l'ionosphère, au-dessus de l'ionosphère, Mars et Vénus se ressemblent très fort. Il y a les mêmes phénomènes d'interaction de vent solaire. Les deux planètes n'ont pas de champ magnétique. Et l'instrument Aspera, qui est aussi à bord de Mars Express, qui compare Mars et Vénus directement à des mesures vraiment de planétologie comparée, extrêmement précises et importantes. Et à partir de la compréhension des modèles d'atmosphère, remonter à ce qu'a pu être le climat de Vénus. Alors comment ? Ben simplement, si on est capable de reproduire ce qu'on voit avec assez de précision, on aura assez confiance en ce que le modèle pourra prédire avec, par exemple, un ensoleillement différent, puisqu'on sait que le niveau d'ensoleillement, d'activité du Soleil a varié dans le passé, et essayer de comprendre, par exemple, l'échappement de l'eau, savoir, à partir du deutérium, on peut au moins approximativement quantifier la quantité d'eau qu'il y a eu à un moment sur Vénus. Par analogie également, on peut penser qu'à un moment au moins, il y a eu sur Vénus l'équivalent de l'océan terrestre, même si les avis divergent sur la quantité ou la profondeur de l'océan en question. La question est, quand cet océan a-t-il disparu ? Sous l'effet de l'effet de serre, cet océan s'est évaporé, a disparu. Bon, les mécanismes généraux sont compris. La question est maintenant de mettre ça dans le temps. Est-ce que ça s'est produit dans le premier milliard d'années ou même moins ? Ou est-ce que ça s'est produit plus récemment ? Et certains indices montrent que ça pourrait être lié à une activité volcanique plus récente de Vénus, comme par exemple une évolution lente de l'atmosphère pendant plusieurs milliards d'années et un effet de serre catastrophique au bout seulement d'un temps assez long qui évaporerait l'océan et le ferait disparaître il y a seulement quelques centaines de millions d'années. Alors ça change tout là du point de vue, cette fois, de l'évolution planétaire, surtout si on pense que sur Terre, en quelques centaines de millions d'années, la vie était apparue. Et si Vénus a pu connaître le même genre de climat pendant assez longtemps, il n'est pas du tout exclu que Vénus ait pu, comme Mars d'ailleurs, connaître le même genre de climat. Le problème est que sur Vénus, aucune trace ne va subsister à cause de l'activité volcanique globale, contrairement à Mars. Mais au moins, donc on ne pourra certainement pas retrouver de traces, mais on peut au moins comprendre le climat. Alors maintenant également, le système solaire n'est plus unique. On a de nombreux exemples d'exoplanètes. Un jour... Bon, sans doute pas tout proche, mais qui se comptera en décennies, mais on arrivera à observer ces exoplanètes et à mesurer leur spectre. À partir de ces spectres, on pourra comparer est-ce que les exoplanètes de type tellurique, donc de même masse en gros que la Terre, sont plutôt comparables à Mars ou à Vénus ou à la Terre. Peut-être que Vénus est justement l'état le plus courant des exoplanètes telluriques. Personne ne peut le dire aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un état possible et c'est un de nos étalons, donc mieux comprendre nos planètes autour du Soleil permettra de comprendre un jour les exoplanètes pour éventuellement être capable de détecter dans leurs atmosphères des signatures comme sur Terre peuvent être liées à l'activité biologique. Voilà un peu le programme là, que je décris pour plusieurs décennies sans doute. Et je vous remercie de votre attention.
C'était Pierre Drossard, directeur de recherche au CNRS, au LESIA, Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Il réalisait le bilan des observations de Vénus Express au cours d'une conférence qui se déroulait au Bureau des Longitudes à l'Institut de France en novembre 2008. Des conférences ouvertes au public dont vous pouvez consulter leur programme sur leur site au www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines émissions.